Avant de démarrer le podcast, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier pour tout le soutien que je reçois chaque semaine, que ce soit vos mentions, les commentaires sur les réseaux sociaux, les mails que je reçois également, vos notes et les reviews que j'ai sur iTunes. Ça me fait tellement plaisir, alors vraiment merci. J'adore pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez vraiment pas à continuer, c'est vraiment trop cool. Et puis je voulais aussi vous partager un chiffre, sans le savoir, j'ai découvert aujourd'hui qu'on avait dépassé les 11 000 écoutes sur le podcast. Alors je trouve ça vraiment génial, alors que le projet a même pas 3 mois. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Cette semaine, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Adrien Moncoudiol. Alors j'ai commencé à entendre parler d'Adrien lorsqu'il avait co-créé Mangrove. Mangrove, c'était un projet ambitieux pour réinventer la façon de travailler avec toute une communauté d'artistes, d'entrepreneurs et de freelance. Il est toujours en phase d'exploration et aujourd'hui, il travaille encore sur plusieurs projets en parallèle. Aujourd'hui, ce qu'il fait vivre financièrement, c'est Mozza, qu'il a co-créé avec Maxime Bro. Et pour faire simple, Mozza, c'est quoi? C'est un design studio de freelance en UX design et product management qui ont déjà plusieurs années d'expérience dans de belles startups. Ils sont aujourd'hui 8 et on en parle plus en détail dans le podcast. Parmi les sujets de la semaine, on a notamment parlé de ses phases d'exploration justement parce que comme beaucoup de gens, il continue de se chercher, de tester et d'essayer de nouveaux projets. On a également parlé de son passage de salarié en startup à freelance et notamment de ses désillusions en startup que j'ai trouvé super intéressantes à partager. On parle également de Mangrove et de la façon dont il a structuré cette communauté. Ce sont des projets qui m'intéressent beaucoup en ce moment et les conseils et bonnes pratiques d'Adrien peuvent vraiment s'appliquer à plein de sujets et je pensais notamment au travail en équipe quand on est freelance ou à la création d'un collectif. Le gros sujet du podcast a été également sa V2 du freelancing et donc la structuration de Mozza. On a essayé d'être le plus précis et complet possible à ce sujet, si vous avez des questions n'hésitez pas à le contacter ou on peut en parler directement. Je lui ai aussi demandé comment il réussissait à gérer son temps entre projets financiers et projets plus perso. On a aussi parlé de passion, de pression sociale et de ses inspirations du moment. Je partage maintenant une synthèse écrite du podcast et de mes commentaires aux abonnés de la newsletter. Pour rejoindre la communauté, tout se passe sur aleximinkela.com/podcast et vous avez le lien en description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Je te propose de commencer.
Ouais, tu veux que je compte sur quoi?
Déjà, bonjour Adrien.
Bonjour Alexis.
Est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu te présentes toi aujourd'hui du coup?
Ah là là,
c'est la même question.
C'est difficile, c'est vraiment l'enfer à chaque fois qu'on me pose cette question.
Bon, en fait, je préfère te la poser plutôt que de mal te présenter.
Ouais, en général, j'aime bien dire que je travaille sur des projets très différents. Et en fait, en fonction des personnes à qui je m'adresse, je vais souvent parler d'un projet en particulier. En l'occurrence là, pour ton podcast, je pense que le premier projet qui peut intéresser les gens qui nous écoutent, c'est Mozza, qui est un design studio un peu plus moderne que les agences traditionnelles et qui permet à des entrepreneurs de réaliser leur vision à travers des produits qui sont bien pensés. Donc on fait de l'UX, de l'UI, de la stratégie produit. Avec les meilleurs designers et product managers de Paris. Donc ça permet aux entrepreneurs voilà d'avoir accès à la crème de la crème en termes de skills et pour autant d'économiser des sous sans avoir à les recruter full time parce que voilà les gens très qualifiés ça coûte cher. Ça c'est le premier projet sur lequel je bosse, c'est le projet qui me nourrit aujourd'hui. Et après j'ai quelques autres projets à côté. Notamment deux festivals de musique artistique, un à Paris et un en Auvergne. Et à côté de ça, j'expérimente souvent des nouveaux petits projets. Je fais de la photo et voilà, on voit comment tout ça évolue et c'est assez organique en fait.
Mais d'ailleurs, parce que j'ai fait un peu mes devoirs, j'ai écouté l'interview d'il y a du coup 2 ans avec Antonin Archer sur Nouvelle École.
Ouais.
Et du coup, il y a à peu près 2 ans, tu disais que t'étais en phase d'exploration. Tu testais encore plein de choses.
Ouais.
Est-ce que c'est toujours j'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas.
Ouais, c'est toujours un peu le cas. C'est clair. J'ai toujours un peu le même fonctionnement où une partie de la semaine est consacrée à un projet qui permet de financer le reste de mes projets qui pour l'instant me ramènent pas d'argent. Après, je pense que comparé à il y a 2-3 ans quand j'ai fait cette interview. Ça s'est un peu consolidé quand même, c'est-à-dire qu'avant par exemple je faisais du freelance solo, avec des clients de type hyper varié qui arrivaient un peu de manière aléatoire. Aujourd'hui, voilà, on a monté ce studio, on est 8, ça s'est consolidé, quoi. Ça a grossi. Ça veut pas dire que je passe beaucoup plus de temps. En revanche, c'est plus stable, c'est plus sûr. Et du coup, ça me permet vraiment de m'appuyer dessus facilement pour tester d'autres choses à côté. Et c'est vrai qu'après le reste du temps, ouais, je suis à fond dans l'exploration. Après, voilà, les projets que j'ai lancés il y a 2-3 ans, pour la plupart, continuent. Et pour autant, je pourrais pas dire que j'ai vraiment trouvé ma voie et exactement le truc que je veux faire, quoi. Donc, peut-être que c'est ma personnalité aussi.
Mais dans tous les cas, enfin, j'ai bien envie qu'on creuse le sujet de modèle, parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant et sur lequel on t'a pas encore beaucoup entendu. Juste avant ça, j'ai vraiment juste envie de comprendre comment est-ce que t'es. Alors, je sais que comme moi, t'as fait très peu de mois en tant que salarié. Je crois que t'es resté quoi, 9-10 mois en tant que salarié.
Chez Molotov, ouais. Après, j'ai fait mal de stages avant.
Ok. D'ailleurs, à San Francisco, non?
Ouais. Ouais.
Au moment où tu quittes Molotov, du coup, tu te dis. C'est à ce moment-là où tu quittes pour devenir freelance, ou tu te dis je quitte et j'ai juste envie de faire autre chose et je me repose la question, ou la suite elle est logique ou pas là-dessus?
Je quitte un peu de rage, en fait, contre ce que j'ai découvert dans cette entreprise-là, qui est en fait assez symptomatique de beaucoup d'entreprises françaises, je pense, mais pas que françaises d'ailleurs. Il y a 3 ans. Un cri du cœur et un cri de rage contre ce système du salariat dans des entreprises où les gens travaillent pas forcément en accord avec leurs principes, les principes en tout cas qu'ils affichent, et où j'ai l'impression que l'objectif c'est pas forcément l'épanouissement des employés et de la société. J'avais pas vraiment de plan quittant Molotov. Après, on avait quand même un peu derrière la tête ce projet Mangrove, qui était voilà, cette communauté d'entrepreneurs, de freelanceurs qui voulaient réinventer la manière dans son travail. Et le fait d'avoir déjà un groupe sur lequel s'appuyer, ça a un peu facilité les choses. Mais après, franchement, on savait pas du tout où on allait, quoi. On était un peu la fleur au fusil à voir ce qu'on allait pouvoir créer. Et comment est-ce qu'on allait pouvoir chambouler ce monde du travail-là qui nous paraissait un peu old school, quoi.
Parce que toi, du coup, tu dis que t'étais un peu déçu. Je te rejoins pas mal sur certains sujets. En gros, toi, tu finis tes études. T'avais déjà l'ambition de, je sais pas, d'aller dans une start-up, potentiellement de bosser à l'étranger. T'envisageais comment un peu, toi, le monde du travail? J'ai l'impression que tu t'es pris aussi un peu la réalité un peu en pleine face, où tu te dis, ok, t'as ce qu'on te vend de l'extérieur, t'as un peu la vitrine. Ouais. Et puis quand tu vas dans la boutique, tu te rends compte que les méthodes sont pas forcément les plus top, quoi.
Ouais, non, c'est sûr que ça m'a, je me suis un peu pris une claque. Après, j'ai pas l'impression d'avoir débarqué dans cette boîte de manière complètement naïve. Enfin, j'avais déjà bossé sur des longs stages pendant 1 an et demi à San Francisco pour 2 startups. Je savais que voilà, l'intérieur d'un projet est jamais le même que ce qu'on en voit de l'extérieur. Après, là ce qui m'a vraiment surpris, c'est plus la culture de la boîte et de ses dirigeants, qui contrastait énormément avec ce que j'avais vécu à San Francisco. Qui pouvait pas continuer pour moi à ce moment-là, quoi. Donc j'ai préféré partir pour essayer de nouvelles choses.
Du coup, là, c'est quasiment rapidement après, c'est à ce moment-là que tu co-crées Mangrove ou pas?
Ouais, franchement, ça s'est très vite enchaîné, en fait. C'est très vite enchaîné. On a quitté Molotov, on était une bande de potes qui s'entendaient super bien, avec des gens hyper talentueux, qui avaient des compétences complémentaires. On s'est dit, on peut pas se disperser comme ça dans la nature, on s'entend trop bien, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Pour autant, on n'avait pas envie de monter une start-up ensemble après l'expérience qu'on avait vécue là-bas. Et on avait tous des projets, des side projects. Moi, j'étais président d'une asso à ce moment-là. Il y en a d'autres qui voulaient beaucoup voyager, d'autres qui voulaient créer des contenus. Donc, on s'est dit, Mangrove, en fait, c'est la meilleure manière de rester ensemble, de s'entraider sur nos projets. tout en gardant beaucoup de liberté. Et donc, on a créé cette structure pour ça.
Et comment tu t'as géré le début pour trouver des clients? Alors, je sais que t'as commencé aussi à ce moment-là à créer pas mal de contenu, des slideshares, tu partageais, tu commençais d'ailleurs à partager un peu sur Medium aussi.
Ouais.
Comment est-ce que tu commences un peu à te faire connaître? Les clients viennent à toi de manière un peu naturelle ou tu t'essaies de provoquer certains deals?
Disons que c'est principalement du réseau. Donc les gens qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé par le passé, que j'ai rencontré à différentes occasions, qui est activé en plus par les contenus qu'on produit. Donc pas mal de présentations slideshare, effectivement des talks, des posts sur Medium. Et aussi l'avantage de ces contenus-là, c'est qu'ils dépassent ensuite mon réseau et du coup ça me permet de rentrer en contact avec de nouvelles personnes. Donc ça se fait de manière assez organique en fait. Même encore aujourd'hui avec Mozza, on fait pas de sales, on va pas contacter des boîtes pour bosser pour elles. Non, c'est que du flux entrant de gens qui ont été recommandés, qui nous ont recommandés par d'anciens clients, par des amis. Donc on commence à avoir une marque reconnue dans l'écosystème qui fait que les gens viennent nous voir assez naturellement. Ouais. C'est cool ça.
Trop bien, c'est un peu l'objectif de tous les freelances, quoi, de passer le moins de temps en prospection.
Ouais, après au bout de 3-4 ans, c'est normal, si tu fais du bon taf, c'est normal que ça se passe comme ça, tu vois.
Complètement. Ouais. Du coup, c'est marrant, tu parlais de SlideShare. Moi, j'avais vu, alors je sais pas si c'est sur toi ou sur je sais pas comment je suis tombé dessus, peut-être toi ou Maxime qui est l'autre associé sur Mozza. Il y avait une partie SlideShare et il y avait aussi une partie où vous filmiez en train de télécharger des applications et de tester les premiers parcours utilisateurs. C'était une technique ou pas?
Comment t'as trouvé ça, quoi?
Franchement, je sais même pas en préparant ça, c'était à l'époque où j'ai trouvé l'info.
Ah, c'est dingue, c'est vraiment ça, Bon, c'était un test qu'on avait fait il y a 3 ans.
On se
filmait en train de télécharger des apps et en train de les essayer et on faisait des commentaires après à chaud, c'était super dur. Ça a pas du tout marché.
C'est vrai? J'allais te demander les résultats de ça, parce qu'après, t'envoyais ça au client?
Ouais, après, on envoyait ça. En fait, on avait envie de bosser pour des startups de la Silicon Valley, qui venaient de faire Y Combinator. On voulait bosser pour des boîtes, qui, selon nous, étaient vraiment à la pointe de ce qui se faisait. Et du coup, on se filmait en train d'essayer l'application et donner du feedback. L'avantage, c'est que souvent, elle regardait les vidéos, souvent, elle nous remerciait, ou quand elle nous répondait, elle nous remerciait. Après, on n'a jamais décroché de mission pour ce genre de boîte là parce que eux ils ont les fonds et la marque employeur pour recruter des gens full time d'emblée, quoi, donc c'est pas forcément la meilleure target pour nous.
Mais d'ailleurs je me pose la question parce que tu vois par exemple dans le petit écosystème parisien startup ils bossent de plus en plus, enfin les boîtes bossent de plus en plus avec des freelances, c'est pas forcément le cas du coup aux États-Unis.
Ah si, carrément. Si, les startups américaines sont encore plus ouvertes aux freelance que les françaises, ça c'est sûr. Elles sont beaucoup plus ouvertes au remote, elles ont beaucoup plus de confiance dans les freelanceurs, elles ont plus de fonds aussi. Évidemment, dans la Silicon Valley, quand le salaire d'un designer c'est 150 000-200 000 $ par an, et qu'en plus t'as de fortes chances qu'au bout d'un an ou deux, ils se fassent débaucher par Facebook pour un salaire encore plus important. Ces boîtes-là ont compris qu'elles avaient tout intérêt à aller recruter des très bons designers français. Et nous, on bosse pas mal avec des boîtes américaines, quoi. C'est pour ça qu'on fait tous nos contenus en anglais. C'est pour ça qu'on tourne souvent aux États-Unis, à New York ou à San Francisco, pour aussi alimenter notre présence là-bas et bosser pour des startups là-bas. Après, la majorité des gens dans Mozza sont quand même français, basés autour de Paris. Mais on est en train de justement d'accroître notre présence dans les Silicon Valley.
J'ai te demandé, l'ambition c'est de recruter, enfin de travailler avec d'autres free qui sont peut-être sur place potentiellement.
À San Francisco? Alors à San Francisco il y a vraiment très peu de freelance parce que la vie est très chère et c'est difficile de bien vivre si tu bosses pas dans une grosse boîte tech. Et les freelance se font très vite débaucher en fait par les grosses boîtes tech. C'est pas forcément, du coup c'est pas forcément la ville la plus cool quand t'es freelancer.
C'était pas le bon cadre aussi non plus, ouais, effectivement, côté
si t'es freelancer aux États-Unis, vaut mieux aller dans des villes qui vont être moins chères, parce que les startups de San Francisco sont totalement ouvertes au remote, quoi. Donc voilà.
Ok, cool. À ce moment-là, du coup, t'as aussi, donc là on est quoi, en 2016 à peu près, au moment où tu lances Mangrove, tu te lances aussi en free par la même occasion, tu commences à 2016, comment tu commences à structurer qui est en fait, même si de ce que je comprends, et tu me dis si je me trompe, mais globalement, Mangrove, il n'y avait pas d'objectif business derrière ça.
Non.
C'était plus de l'entraide, bosser sur des projets collectifs entre vous.
Mm-hmm.
Comment est-ce que vous structurez ça? Vous êtes quoi, 4-5
5 fondateurs. On monte une asso.
Okay, okay.
Effectivement, il y a à aucun moment on veut générer du revenu avec Mangrove directement. Après on se dit que potentiellement on va pouvoir monter des business au sein de Mangrove, au sein de notre communauté qui eux
sorte de produits interne, tu puisses après
sorte des produits ou toutes sortes de choses en fait quand on rassemble des gens qui sont talentueux, qui ont des compétences complémentaires et qui ont du temps parce qu'ils sont freelanceurs pour bosser sur des projets à côté, on sait qu'il y a des belles choses qui vont émerger et on se disait que potentiellement il y aurait la possibilité si tu veux de générer des revenus avec ça. Mais c'était très flou, c'était pas très cadré au départ comme projet et ça l'a jamais vraiment été d'ailleurs et c'est aussi pour ça que petit à petit le truc s'est évanoui et qu'on a décidé d'arrêter avant que ce soit complètement bidon quoi.
Parce que en gros tu montes on en parlait juste avant mais il y a de plus en plus de petits groupes qui se recréent des tout petits écosystèmes entre eux soit pour échanger, pour partager des compétences, jouer sur l'intelligence collective, etc. C'est quoi un peu les premières briques que tu mets à ça pour déjà créer un peu cette micro-culture que t'as avec 5-10 personnes? Et comment est-ce que t'arrives à structurer ça? Est-ce que, je sais pas, tu passes par un outil type Slack? Est-ce que tu commences à monter des tout petits événements pour vous retrouver physiquement?
Oui, c'est un peu ce que t'as dit. Après, un truc qui est super important pour moi au départ, c'est de mettre sur le papier la vision du projet, pourquoi on le fait et les points communs en fait qu'on va rechercher entre les membres quoi. C'est quoi les valeurs qui font que quelqu'un va adhérer à fond à votre groupe et d'autres personnes pas du tout quoi. Ça c'est hyper important à mon avis d'être radical là-dessus. Si tu veux créer un fort sentiment de communauté, un fort sentiment d'attachement, il faut être clivant sur tes critères de recrutement et sur la vision de ton projet.
Et d'ailleurs il y avait pas de leader hein. Enfin c'était assez flat en termes
Mangrove. Bah en fait effectivement on a voulu faire au maximum sans leader officiel. Après dans tout groupe il y a des leaders qui émergent
de manière un peu naturelle
et je pense que c'est pas une bonne idée de chercher à brider ça parce qu'en fait il y a aussi des gens qui sont très contents d'être leader sur des projets, ça les rassure vachement. Du coup, je pense que ça fait partie des choses aussi qu'on a apprises avec Mangrove, qui est que il y a du leadership. Le leadership, c'est quelque chose qui peut être très sain si c'est pensé et fait correctement. Et du coup, à mon avis, une des raisons qui explique la fin de Mangrove, c'est aussi le fait d'avoir une structure qui a eu du mal à vraiment reconnaître les leaders. Et quand je dis reconnaître, c'est pas seulement admettre leur existence, mais c'est aussi valoriser leur rôle et leur permettre de se sentir bien dans ce rôle-là dans la communauté quoi. Donc aujourd'hui, si je cherche à recréer une communauté type Mangrove, il y aura des rôles de leader assumés, sans pour autant que ça devienne des dictateurs évidemment, mais c'est quelque chose qu'on va chercher à intégrer dans le fonctionnement. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure des festivals que j'organise. C'est des festivals qui sont organisés dans une ambiance ultra sympa, très bienveillante, photos, avec cool. beaucoup de joie et d'amour. Ça n'empêche que c'est des organisations qui sont très hiérarchiques en fait. Et c'est vrai que nous dans les références qu'on a de communautés qui font des festivals complètement fous, il y a Burning Man par exemple aux États-Unis qui est une organisation qui est méga hiérarchique en fait, c'est une pyramide avec 12 niveaux différents quoi.
Ça se passe comment? Il y a un mec qui est au-dessus
Burning
est-ce
Man.
Que tu, ouais, est-ce que tu peux juste synthétiser c'est quoi le
Burning Man? C'est un festival qui a lieu dans le désert du Nevada tous les étés. Qui dure une semaine. Alors d'ailleurs, je vais décrire ça comme un festival. Je me ferais tuer par les organisateurs de Burning Man si je disais ça,
parce qu'en fait,
ils se présentent vraiment comme une communauté. Ils veulent pas être assimilés à un festival, encore moins un festival de musique. Donc c'est une communauté qui partage des valeurs communes telles que le don, l'inclusion radicale, le fait d'être dans une démarche de participation. Et du coup, en fait, c'est un rassemblement annuel. Avec 80 000 personnes dans des conditions hostiles qui sont le désert du Nevada et en fait les participants viennent créer des œuvres artistiques d'abord puis des constructions architecturales, jouer de la musique, organiser des activités. Et en fait, c'est vraiment une petite ville de gens libres qui viennent se dépasser dans des conditions assez difficiles pour apporter de la joie, de l'émerveillement aux autres, quoi.
Tu es déjà allé ou pas?
Ouais, si, j'y suis allé 3 fois. J'y retourne cet été avec ma mère. Parce que j'ai envie qu'elle découvre ça. J'ai envie de briser le cliché du festival qui est juste une énorme teuf avec de la drogue et du sexe, parce que Burning Man, c'est loin d'être ça, quoi. Donc voilà,
c'est cool qu'elle veuille faire l'expérience.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est cool qu'elle soit d'accord, et on a trop hâte d'y être, quoi.
Et du coup, tu disais, donc c'est assez hiérarchique, en fait, de l'extérieur. Ouais. Tu vois, on se dirait, enfin, moi, de ce que je connais de ce festival, tu te dis, c'est une co-création qui est totalement collective, et en fait, chacun trouve sa place, mais du coup, en fait, tout ça est piloté quand même par
équipe. Okay. Ouais, après, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument une hiérarchie dans tout projet collectif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui fonctionnent très bien sans hiérarchie, mais disons que c'est pas possible d'avoir comme Mangrove une organisation où tout le monde est remote, où tout le monde contribue de manière bénévole, où tout le monde s'implique à temps partiel et qui est en plus est flat, quoi. Et en fait, on peut pas combiner tous ces idéaux dans un projet commun. Faut faire des choix. Tu peux très bien avoir une communauté horizontale de 50 personnes, mais il faut que les gens se voient régulièrement. Il faut mettre en place des mécanismes de reconnaissance qui vont valoriser les rôles de leadership. Voilà. Donc en gros, c'est important d'être un peu pragmatique aussi sur ça, quoi.
Parce que moi, je me pose toujours la question, mais quels que soient les projets, que tu sois même dans un collectif de free, etc. Par exemple, typiquement, j'ai un ami qui Thomas, qui est passé sur le podcast, qui a lui un collectif qui s'appelle La Young. Mmh. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont une vingtaine, mais t'as quand même le niveau d'investissement. C'est compliqué d'avoir le niveau d'investissement égaux pour chacune des personnes qui est dans le collectif. À partir du moment où t'as pas été là au moment où ça s'est co-créé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, bah, il y a un challenge énorme qui est de réussir à transférer de l'ownership aux nouveaux arrivants, quoi.
Ouais.
Leur donner vraiment l'impression que c'est aussi leur projet et qu'eux-mêmes peuvent l'influer, le développer. Et ça, c'est super difficile à faire.
Typiquement, ouais, peut-être les mettre justement en ownership sur, sur un projet particulier du collectif ou de l'organisation pour peut-être que, la personne se sente aussi peut-être plus responsable, quoi.
Ouais, il faut réussir à simplifier ça au maximum pour commencer, et après petit à petit les gens s'impliquent, quoi.
Du coup, ouais, tu le disais, Mangrove s'est arrêté. Du coup, aujourd'hui, il y a plus rien, enfin, Mangrove continue d'exister.
Mangrove existe toujours dans nos cœurs, et ça reste une famille qui a vécu des très belles choses ensemble. On travaille plus sur Mangrove même.
Il y a un après, il y a une suite à ça ou pas?
Il y a un après, pas directement. En ce moment, on est en train de bosser sur un nouveau projet de communauté, mais qui diffère de Mangrove sur pas mal de points. C'est une communauté qui, dans un premier temps, sera basée à Paris, donc on n'est pas sur du remote. Ce sera dans un lieu à Paris. Ce sera pas que des entrepreneurs aux freelancers dans la tech, on veut aussi intégrer des artistes, des créateurs, et aussi c'est un projet avec une vraie vocation sociale, c'est-à-dire que on s'est vraiment bien fait kiffer avec Mangrove. Je pense qu'on a fait évoluer les mentalités de pas mal de gens sur le travail en remote, sur le freelancing, sur en fait qu'est-ce qu'on peut attendre de notre vie professionnelle et quelles sont les exigences qu'on doit avoir par rapport à elle. Après là, aujourd'hui, il y a des urgences sociales et environnementales qui font que on est de plus en plus à vouloir s'engager là-dedans et faire quelque chose, et ce prochain projet prendra vraiment ça en compte, quoi. Et donc l'idée, c'est de rassembler des gens, voilà, avec des backgrounds hyper variés, avec des compétences hyper variées, qui se sentent concernés par la manière dont la société évolue, qui se sentent concernés par les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui veulent s'impliquer à travers leur projet dans un combat pour plus de Ouais, plus de justice et plus de responsabilité, de conscience sociale et environnementale. Donc,
parce que voilà. Du coup, ça sera, il y aura quoi? Il y aura des projets qui vont être co-créés avec toutes ces personnes-là, ou chacun arrive avec ses projets?
Ça, on verra. Honnêtement, on en est encore au tout début. Okay. Évidemment, moi, comme tu disais tout à l'heure, je suis convaincu que quand tu rassembles des gens qui ont des compétences complémentaires et des valeurs communes, il y a des projets qui émergent. Mais on n'est pas encore à vouloir faire un incubateur de projets, c'est pas la vision pour l'instant.
Ok, trop bien. En tout cas, hâte de voir, d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Du coup, en gros, Mangrove s'arrête, t'as ces festivals-là, t'as d'autres projets à côté. Mm-hmm. Mozza se crée à peu près fin d'année, mi-2018 à peu près.
Mozza, on l'a créé en 2017 avec Maxime. Okay. À San Francisco. On était retourné vivre là-bas. Pendant 3 mois et on avait envie de monter une structure commune parce qu'on faisait pas mal de freelance tous les deux. Et on s'est dit on va s'associer pour plus être tout seul dans un premier temps sur nos missions. On avait vraiment envie de bosser à deux. On trouvait que c'était à la fois plus intéressant pour nous, plus fun aussi et surtout ça donnait un meilleur travail au final parce qu'on pouvait justement rebondir sur les idées de chacun. Et les clients étaient encore plus contents, quoi. Donc, on s'est dit, on va monter une structure, on pourra bosser tous les deux, on garde vachement de liberté, comme quand on était freelance. Mais grâce à cette marque commune, on va pouvoir attirer plus de monde, plus de clients, et on va pouvoir produire de meilleurs résultats. Et en fait, petit à petit, la structure a grossi. On a accueilli 6 autres personnes depuis la création de Mozza. Donc, c'est que des designer, UX/UI ou ancien product manager qui bossait dans des très belles startups françaises, type BlaBlaCar, Molotov, PayPal, Payfit, Crème de la Crème. C'est vraiment des profils seniors, experts dans tout ce qui va être le design et la conception de produits. Et en fait, ensemble, on bosse sur des missions pour des startups, soit des projets très jeunes qui ont besoin d'une team très expérimentée pour concevoir la bonne première version du produit, soit c'est des boîtes un peu plus avancées qui ont besoin d'un nouveau regard sur leur situation. Et donc, on a bossé pour des startups comme Aircall, Itch, par exemple, à Paris.
Je vois Mozza entre une agence un peu classique et un collectif de freelance parce que vous êtes focalisé sur une seule compétence. J'ai l'impression que c'est un peu la V2 du freelancing, quoi. C'est-à-dire que une fois que t'es tout seul, que tu dis et que c'est cool aussi d'être tout seul,
c'est clair.
Mais ça va un temps et que t'as aussi envie d'être sur des plus gros projets, potentiellement avec un peu plus de challenge aussi parce que les projets sont plus grosses envergure, peut-être aussi plus stratégiques. Au début, vous êtes tous les deux. Est-ce que vous êtes posé la question à un moment donné, et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de collectifs, de se dire, en fait, je prends des compétences qui sont différentes de ce que nous, on a en termes de compétences, et d'avoir, je sais pas, par exemple, des gens un peu plus techniques sur de la grosse, des gens qui sont plutôt sur de la copie. Est-ce que cette question-là, elle s'est posée ou pas?
Non, pas vraiment. En fait, on veut vraiment se concentrer sur ce vertical du design et de la conception de produits,
okay.
Qui est notre spécialité. En fait, moi, au début, je faisais du freelance en gros hacking, justement. Et je me rendais compte que la plupart des startups qui venaient me voir pour améliorer leurs metrics, en fait, avaient pas besoin de plus de visiteurs. Ils avaient juste besoin d'un meilleur produit, quoi. C'est-à-dire que t'avais énormément d'argent qui était dépensé dans des campagnes d'advertising sur Facebook, où t'avais, voilà, des milliers de visiteurs par jour. Et en fait, tu regardais la rétention une semaine après, tout le monde était parti. Et donc, en fait, c'est des boîtes qui dépensent des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans de l'acquisition payante inutile, parce que au final aucun converti, parce que le produit est mal pensé, l'onboarding est mal pensé, les fonctionnalités derrière sont mal conçues, sont trop floues, sont trop nombreuses, et donc vraiment c'est récurrent, quoi. Des startups early stage qui ont pas une très bonne équipe produit derrière, c'est tout le temps le même problème. Elles vont chercher à tout mettre d'un coup dans un même produit. Le problème, c'est que c'est pas seulement les coûts de design, si tu veux, qui sont impactés, c'est aussi les coûts de dev derrière, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de boîtes qui vont concevoir la vie de leur produit elles-mêmes, et si ça n'a pas été bien fait avec des personnes expérimentées, t'as tout le dev, si tu veux, qui enchaîne derrière, ouais. Et donc le résultat, c'est un produit qu'il faut revoir quasiment from scratch au bout d'un an parce que les chiffres sont pas là. Et du coup, c'est, nous, c'est ça notre combat, c'est que on cherche à rassembler les meilleurs cerveaux sur ces compétences-là. Ils sont payés 4 fois plus cher que quand ils bossaient dans leur startup auparavant, et ils vont bosser sur des moments hyper stratégiques pour ces startups-là. Voilà, soit c'est la V1 de leur produit, donc voilà, vraiment comment tu conçois un produit qui soit joli, intuitif, mais aussi bien pensé en termes d'engagement utilisateur pour ensuite avoir des metrics qui vont te permettre de lever des fonds en tant que startup ou en tout cas de continuer de te développer. Ou alors des boîtes un peu plus avancées qui en fait ont des designers et des product managers qui sont complètement sous l'eau parce qu'en fait elles n'arrivent pas à recruter des personnes qualifiées et qui du coup perdent si tu veux leur créativité et viennent nous voir du coup pour qu'on vienne apporter si tu veux voilà une nouvelle un nouveau regard et comme on bosse sur si tu veux 5 ou 10 projets différents on a quand même une bonne vision de la direction dans laquelle va l'industrie. Et moi, je suis convaincu que les meilleurs dans leur domaine aujourd'hui en design, c'est des freelancers. Parce qu'en fait, continuellement, ils doivent se mettre à jour sur les tendances pour rester compétitifs sur le marché de l'emploi.
Et tu crois pas que c'est, j'ai plein de questions qui me viennent, je vais essayer de pas les oublier. Tu crois pas que c'est pas seulement lié au design? C'est-à-dire que moi, je le vois aussi beaucoup côté marketing, notamment en copywriting.
Oui.
Même certains devs, en fait.
Ouais.
Le truc, c'est que tu vas avoir une problématique, c'est que, enfin, je sais pas ta vision là-dessus, mais je sais pas si tout le monde demain pourrait être freelance.
Alors, ça c'est vraiment alors du coup, il y a vraiment 2 questions différentes, effectivement.
Oui,
la première sur les compétences. Pourquoi on choisit le produit et le design? C'est parce que, comme je te disais, selon moi, c'est ultra stratégique quand tu commences à monter ta startup. En fait, ce que vont regarder les investisseurs, c'est tes metrics, quoi. Donc, bien sûr, il va y avoir des code reviews quand tu veux lever des fonds par la suite. Et je dis pas qu'il faut négliger le développement. Je dis pas non plus qu'il faut négliger le marketing, le copywriting, etc. C'est super important. Mais quand tu montes une startup au départ, si en fait ton produit n'est pas bien pensé, en fait, c'est comme si tu construis une table qui est cassée, quoi. En fait, genre vraiment, c'est la base de ton business, c'est la qualité de ton produit. Et en fait, si ton produit est mal pensé, bah du coup, tu vas ensuite payer des développeurs qui vont concevoir un produit mal pensé, tu vas payer des marketeurs qui vont attirer des visiteurs sur un produit qui est mal pensé. En fait, genre tout repose, tu veux, sur la qualité de l'expérience que tu proposes, quoi. Et du coup, nous, c'est pour ça on s'attaque à ça. C'est aussi ce qu'on faisait depuis longtemps. C'est là, on connaissait plein de gens très bons là-dedans, donc assez naturellement c'est parti de là. Mais je suis convaincu par l'aspect stratégique du design et la stratégie produit. Voilà. Et après on verra par la suite comment on veut faire voilà grandir notre projet. Mais aujourd'hui il y a encore énormément de choses à faire en produit et donc on reste sur cette verticale. Ensuite concernant est-ce que tout le monde peut être freelance?
Ouais, moi je me pose toujours la question. En fait, je trouve que c'est au-delà d'être un mode de vie, pour moi je vois ça comme une vraie activité, c'est un vrai business d'être freelance.
Ouais.
C'est pas que digital nomade à Bali. Mais au-delà de ça, moi j'encourage les gens à tester en tout cas ce mode-là, mode de travail là. Mais je me dis, est-ce que c'est de un fait pour tout le monde? Et est-ce que demain tout le monde sera capable de, enfin tout le monde pourra travailler en freelance de manière un peu décentralisée, etc.
Tu vois? Bah alors, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres en freelance. Néanmoins, je pense que c'est hyper intéressant d'essayer de se lancer, parce qu'en fait, à partir du moment où tu réussis à signer une mission en freelance solo,
c'est trop bien.
Si tu veux, ça te donne un sentiment de liberté monstrueux par rapport, si tu veux, à ta carrière. En fait, tu dis, j'ai pas besoin d'une entreprise pour vivre. Et ça c'est un sentiment de liberté, de puissance qui est très fort. Après, le freelancing vient avec des contraintes qui vont être plus ou moins chiantes en fonction des profils, quoi. Donc évidemment tout le monde doit pas passer sa carrière en freelance, mais en tout cas de tester, c'est quand même vraiment intéressant. Et après, nous, c'est ce qu'on cherche à faire avec Mozza, c'est qu'on, effectivement, il y a des trucs super chiants côté freelanceur. Il y a le fait de devoir constamment attirer de nouveaux clients, donc produire du contenu. Il y a le fait de devoir négocier avec ces clients-là des bons taux horaires, etc. Il y a le fait que tu te retrouves tout seul à bosser sur la mission. C'est moins drôle, c'est moins enrichissant que quand t'as des collègues qui vont te challenger, te donner de nouvelles idées, etc.
Et tu montes aussi un peu moins vite en compétences.
Tu montes moins vite en compétences. Enfin, tout ça. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Mozza. C'est qu'en gros, Mozza, c'est très bien décrit, c'est un peu une sorte de V2 du freelancing, où grâce à la marque, Naturellement, on a des super leads, des startups vraiment cool françaises ou américaines qui viennent nous voir. On est toujours à 2 ou 3 personnes sur les missions, donc en fait, t'es pas tout seul dans ton coin. T'es avec des gens qui vont avoir des super compétences, qui vont pouvoir t'aider à t'améliorer. C'est aussi des gens qui sont super sympas. En fait, on est en vrai une super bande de potes, quoi. Donc, on n'intégrera jamais dans le groupe quelqu'un qui fitterait pas d'un point de vue humain. Enfin, qui aurait pas un fit humain, pardon. Et du coup, l'avantage avec Moza, c'est que aujourd'hui, on a une équipe. Ils travaillent tous 2-3 jours par semaine sur les missions. Ils sont payés 600 à 700 euros par jour et ils bossent sur des missions cool avec des gens cool, tout en gardant une liberté énorme, quoi. Ça reste des freelancers, donc ils bossent d'où ils veulent, ils bossent quand ils veulent, et s'ils veulent pas prendre une mission, ils prennent pas la mission. Donc
ouais, complètement. Et du coup, ce tarif-là, c'est ça répond aussi à un problème. C'est-à-dire que c'est lissé, c'est-à-dire que quelle que soit la mission, c'est une journée égale plus ou moins 600, 700 euros, ou c'est en fonction du client?
Non, c'est la même chose pour tout le monde, ouais.
Ok. Et du coup, par exemple, les freaks qui bossent, je sais que toi, tu bosses du coup beaucoup moins sur Moza, enfin, tu bosses plus en tant que tel, en tant que freelance à proprement parler sur les missions.
Ouais.
T'es plus en soutien et en gestion de Moza de manière un peu plus stratégique que personnelle.
Ouais.
Comment est-ce que ça se passe, du coup, les freelances qui vont bosser sur la mission sont en front sur la négo client, etc.?
Non.
Tu disais que ça, du coup,
c'est nous qui gérons. Ça, c'est moi, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est moi qui gère ça, en fait. C'est,
okay.
C'est moi qui gère tout ce dont les freelances ont pas envie de faire. Donc, ça va être la négociation avec les clients, notamment. Dès qu'il y a un problème, c'est moi qui vais m'en occuper.
Okay.
C'est parce que les designers, qui sont des profils créatifs, ont pas envie de faire ça et sont pas les plus qualifiés pour le faire. Donc nous, on veut qu'ils se concentrent sur le design, quoi.
Sur la prod, et puis eux, c'est aussi ce qu'ils recherchent aussi en étant freelance, bosser juste sur des projets et pas gérer la partie admin, etc.
Exactement.
Et vous avez développé une méthode où vous avez un peu une marque de fabrique Moza, au-delà des personnalités qu'il y a et des compétences, il y a une méthode que vous vendez.
On a développé une méthode sur 3 ans, donc on sait comment s'y prendre. On a des typologies de missions qui vont marcher pour certaines typologies de clients. Enfin, donc on sait maintenant exactement, en fait, comment aider un client efficacement sans lui faire signer des contrats de 50 000 euros. Tu vois, on est vachement accessible, on fonctionne par des petits sprints, on a beaucoup de flexibilité. En fait, on a conçu notre modèle pour permettre à des startups de bénéficier à fond du cerveau des gens de l'équipe. Donc ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas un problème. C'est quelque chose qu'on a très bien nailé. Et après, on a, je pense, notre philosophie qui est vraiment propre à Moza par rapport à la plupart des studios de design ou de conception de produits, qui est que, comme je disais, on fait non seulement des produits qui sont jolis et intuitifs, mais vraiment aussi qui sont pensés pour améliorer les métriques clés de la boîte. Donc il y a vraiment cette notion stratégique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas que des UX designers, on a des gens qui étaient product managers auparavant, qui savent mettre les mains dans les metrics, qui savent comprendre le business model d'une boîte, et qui du coup savent que telle feature, on va pas l'implémenter de cette manière-là, on va plutôt le faire comme ça, parce que c'est ça qui va vraiment aider la boîte à ensuite avoir des meilleures metrics. Donc c'est non seulement vraiment des skills visuels de design, mais c'est aussi des skills stratégiques qui sont essentiels pour la boîte.
Ok. Et tu disais que t'étais passé de gros hackers à plutôt des sujets du UX design.
Mmh.
Comment tu fais cette transition-là? Enfin, comment tu te formes concrètement?
Ouais. Alors moi, je suis pas designer non plus. Hein. Donc en gros, Max, lui, est vraiment UX designer, mon associé.
Okay.
Disons que moi, ça depuis 2011, je bosse pour des startups en faisant du marketing. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans le gros hacking, c'est justement qu'on venait intégrer le marketing dans la conception du produit. Et donc c'est ça qui m'intéressait. En vrai, j'ai toujours été vachement intéressé par le produit. Je peux dessiner de l'UX rapidement, mais c'est pas ma core compétence. Moi, là où je suis bon, c'est de rassembler ce collectif-là, de faire en sorte qu'il fonctionne bien, que les gens soient épanouis, ils soient heureux dans ce projet, et qu'on aide vraiment les clients. Donc c'est plus un rôle de manager.
Si je reviens sur Moza, comment est-ce que du coup tu as co-créé ça? Du coup, c'est au-delà de la marque Moza, c'est une structure dans laquelle l'argent passe, en gros, En gros, c'est Mozza qui facture les clients.
Ouais.
Et derrière, c'est en fait les freelances qui refacturent à Mozza et c'est un fonctionnement purement entreprise, quoi. Et les freelances, par contre, eux, restent auto-entrepreneurs ou URL, peu importe.
Ouais, exactement.
Okay. Et aujourd'hui, comment vous répartissez le flux de clients? C'est-à-dire que, je sais pas, si vous êtes 8, vous travaillez avec d'autres, vous travaillez exclusivement à 8 ou ça vous arrive? Ok. Et par rapport au flux de clients, comment est-ce que vous répartissez? Il y a forcément, même si certaines compétences sont complémentaires, parfois il y a des compétences similaires. Comment est-ce que vous attribuez les projets plus par affinité?
On voit en fonction de des affinités, des dispos des gens. C'est, pour le coup, c'est vraiment pas un problème, ça. En tout cas, pour l'instant, on n'a jamais eu de conflit sur deux personnes qui voulaient une mission. En général, les gens sont vachement contents déjà des missions qu'ils ont. Ils sont, il y a pas de tension là-dessus. Et après, si jamais on devait faire des choix, je pense que ça se fera en fonction de l'ancienneté. Tu vois, c'est normal que les gens qui sont là depuis le plus longtemps puissent bénéficier, si tu veux, de ça. Mais en vrai, c'est pas un souci, quoi. On bosse qu'avec des clients avec qui on s'entend bien, qui ont des projets qu'on kiffe, et donc c'est pas, il y a pas une rareté de la bonne mission.
Ouais, je veux dire où tout le monde se jette dessus parce qu'il y a juste un seul client.
Voilà, exactement.
Et d'ailleurs, ça, c'était peut-être aussi à toi un sujet quand t'étais plutôt freelance et que tu faisais, t'étais un peu plus opérationnel sur la question de, tu vois, aujourd'hui t'arrives à bosser 3 demi-journées par semaine. Les frais du studio arrivent à plus ou moins 2-3 jours par semaine. Moi, j'aimerais tendre à ça, mais c'est super compliqué en fait de refuser des clients et de te dire ok, là en fait mes 3 premiers jours de la semaine je bosse sur mes clients et puis après je bosse sur des projets perso. Moi, quand j'ai envie de faire ça, à chaque fois ça glisse, quoi. C'est à dire que je me retrouve en fait le jeudi vendredi à bosser sur des missions clients. Je trouve que là, au-delà de la difficulté quand t'es free, c'est au-delà de trouver des clients où, en fait, au fur et à mesure, si tu fais du bon taf, tes clients vont arriver. Je trouve que la difficulté, c'est que c'est un peu un puits sans fond où en fait, tu peux te retrouver à bosser, à bosser de plus en plus et à quitter un peu ce pourquoi tu t'étais potentiellement lancé en freelance, c'est-à-dire avoir plus de temps pour des projets perso.
Yes.
Est-ce que toi, comment est-ce que t'arrives à vraiment faire la séparation, à te mettre des cadres, à te poser
Non, c'est vrai, ça c'est clairement un challenge et à mon avis un des plus gros pièges quand tu te lances en freelance, c'est effectivement de te perdre dans le freelancing, quoi, et du coup de perdre de vue tes objectifs initiaux qui étaient de passer plus de temps à faire d'autres choses, à monter des projets perso, à apprendre des nouvelles compétences, à voyager, à se cultiver, bref. Je pense que c'est une question de rigueur et de priorisation, quoi. C'est-à-dire qu'en fait pas perdre de vue que ta priorité c'est de développer tel projet ou d'apprendre telle compétence et savoir en fait savoir dire non, quoi, savoir ne pas répondre tout de suite à un email et attendre lundi prochain au risque que le client se barre si jamais ça va pas le faire, parce que si en fait c'est aussi une forme de sélection naturelle, si tu veux, si tu commences en fait à par exemple un truc qui se passe beaucoup pour les designers, c'est les clients qui les relancent permanence avec de nouveaux feedbacks. S'ils se mettent à répondre dans l'heure à chaque email, en fait le client va envoyer de plus en plus de messages comme ça. En revanche, si le client comprend que toi tu réponds aux emails le lundi, le mercredi et le vendredi matin, et il respecte ce fonctionnement là t'imposes un cadre, et en fait il se rend très vite compte que c'est encore mieux, parce que toi du coup t'es plus épanoui dans ton travail, ça respecte tes moments de projet perso ou d'apprentissage, et qui font que quand tu fais du design, t'es à fond dans le design et t'es content de le faire. Donc je pense que c'est important de travailler avec des gens qui comprennent la culture, ta culture de travail, qui l'acceptent, et faut accepter de renoncer aux clients qui vont pas accepter ça, quoi. Parce que sinon tu te perds très vite.
Et toi, du coup, avec tous ces projets, ta semaine, elle s'organise comment? Alors t'as ces demi-journées là, mais par exemple, tu te dis une après-midi, tu préfères bosser quelques heures à chaque fois sur. Tu préfères bosser, par exemple, sur une journée sur plusieurs projets, ou tu préfères te focaliser? Est-ce que t'as des méthodes toi que tu utilises ou pour préparer tes semaines, ou c'est un peu comme tu le sens?
En gros, moi j'ai 3 jours. que j'appelle des jours de management où je prends des calls, je réponds à des emails, je fais des petites tâches administratives chiantes, enfin bref, où voilà, c'est des petites tâches d'une heure ou deux quoi. Ça c'est des voilà des jours où je peux pas entrer en profondeur dans un sujet. Et après il y a un jour pour le coup où là je suis vraiment dans une démarche de création, de réflexion. Où je prends du recul sur tout ça et je me laisse des gros blocs de 4 heures pour réfléchir à des sujets en profondeur. Ça c'est le mercredi en général.
Ou là tu t'autorises pas, est-ce qu'on te dérange?
Là je prends pas de call, pas de meeting, j'évite au maximum quoi. C'est vraiment je fais très très gaffe à ça. Et après c'est ma deuxième journée qui est le vendredi qui est pour le coup une journée à fond axée exploration. Culture, inspiration. Donc là, je suis dans une démarche de recevoir du contenu, de faire des choses qui n'ont pas un intérêt immédiat, mais parce que j'ai envie de les faire, parce que ça me stimule. Donc c'est des jours où je vais vous faire de la photo, des jours où je vais aller faire des expos, où je vais lire des bouquins, où je vais enfin regarder cette vidéo YouTube de 2 heures qu'on me dit de regarder depuis un mois.
Que tu t'es mis à regarder plus tard.
Voilà, exactement. Okay. En fait, c'est donc c'est très différent. Et donc là en ce moment là depuis quelques mois je suis sur ce format là et c'est vraiment pas mal, ça marche bien.
Et du coup le week-end tu coupes complètement ou tu déconnectes jamais? T'arrives à avoir par exemple je sais pas une journée où c'est un sas total où tu fais juste rien en fait?
Non, ça m'arrive pas trop de vraiment rien faire. Je pense que les journées qui ressemblent le plus à ça, ça va être mes journées du vendredi quoi, comme je te disais. Ouais. Peut-être que des gens, ouais, après, ouais, du coup, peut-être que, pour le coup, bah oui, il y a des journées de vendredi où je passe ma journée devant mon ordi à lire des articles et à regarder des vidéos. Peut-être qu'on pourrait considérer que c'est rien faire. Après, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des meilleures journées, donc, ouais, éventuellement, après, dans des journées où vraiment je fais rien et je suis chez moi et je fais pas ça. Mais pour le week-end, ouais, il y a des week-ends où je bosse comme un fou et d'autres week-ends où je fais la fête, d'autres week-ends où je suis à la campagne. Ça varie pas mal.
Ok, trop bien. Je regardais beaucoup, beaucoup de TEDx à un moment donné parce que je trouvais que la qualité des contenus était hyper cool. Mm-hmm. Et du coup, récemment, ce que je te disais, c'est que j'ai écouté celui de Nicolas Beretti, qui est très cool et qui s'appelle, son talk s'appelle L'illusion de la passion. Mm-hmm. Et moi, c'est un sujet, un des bouquins que je recommande souvent et que j'offre souvent, qui s'appelle So Good They Can't Ignore You. Je sais pas si tu connais de Cole Newport.
Non.
Et qui parle de cette quête perpétuelle vers de la passion, etc.
Ouais, ouais.
Et moi, je me pose encore plein de questions là-dessus. Sur, tu vois, typiquement, il y a des projets sur lesquels je sens que ça me plaît, je m'investis pendant quelques semaines, voire des mois, pour au final me dire où je me dis, ok, là, je sens que je suis vraiment passionné, je suis à fond dedans, etc.
Ouais.
Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je commence à me lasser, donc j'essaie de trouver autre chose. Et donc, je suis déçu de me dire que bah, finalement, j'ai toujours pas trouvé ce vers quoi je veux vraiment aller et que je veux me focaliser. Est-ce que toi, tu te sens passionné dans tous les projets que tu as ou pas?
Je pense, ouais. Je pense que... Alors après... Le mot passion, passionné, franchement, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai qu'on en fait des tartines quoi, vraiment trouver sa passion.
Il y a presque un côté, je trouve.
Il y a une pression un peu, une pression sociale sur trouve ta voie, trouve ta passion. Quand je te réponds que je suis passionné par les projets que je fais, c'est que ouais, effectivement, les projets que je fais, ça génère une forme d'excitation dans mon ventre quoi. Tu vois, genre je suis content d'être là, je sens que je suis au bon endroit, je suis avec les bonnes personnes. Et après parfois je me lasse quoi, évidemment. Mais je pense que c'est pas grave du tout pour le coup. Enfin, je pense que c'est jamais des expériences, c'est jamais du temps perdu. Tu vois, ouais, t'as bossé pendant 3 mois sur un court métrage, tu fais ton court métrage, tu le diffuses. Et en fait tu te rends compte que ça te plaît pas tant que ça, t'as pas envie d'en faire un deuxième, mais c'est pas grave, ça reste une expérience de ouf, t'as rencontré plein de gens et t'as quand même sans doute appris certaines choses sur toi. Je pense que pour moi la vraie quête en réalité c'est de se connaître soi-même quoi. En fait c'est super con et c'est pas nouveau hein. Mais de comprendre ce qui toi t'anime dans un projet, dans les relations avec les autres. Et ça c'est quelque chose qui vient avec le temps et dans l'action. Donc évidemment qu'il faut lancer. Enfin je vois pas d'autre manière de trouver sa passion, de trouver sa voie que de lancer des projets et de bosser avec des gens, d'être dans l'action quoi. Donc il faut rester dans l'action. Il faut essayer plein de choses différentes et je suis convaincu que qu'au bout d'un moment, si tu veux, tu finis par mieux te connaître et tu commences un peu à cerner ce qui toi te plaît vraiment, là où t'es vraiment bon, là où tu peux apporter des choses à la société. Donc ouais, pas de pression particulière à avoir là-dessus, je pense.
Ouais, je pense faut essayer de se détacher au maximum de cette pression sociale-là et du coup la boucle est bouclée sans trop le vouloir sur la partie exploration dont on parlait au début en fait. Toujours tester de nouvelles choses, se laisser le temps de sortir un peu du cadre de préconçu que tu t'es fait sur plein de sujets quoi.
Ouais, ouais.
Je termine par quelques questions que j'ai l'habitude de poser, alors je les pose pas tout le temps, parfois dans le désordre. Il y en a quatre. La première c'est quoi la notion que t'as de la réussite? C'est quoi pour toi la vision de la réussite?
Je sais plus, j'ai vu une étude il y a pas si longtemps qui disait que à la fin de en fait c'est une étude qui interroge des personnes âgées, énormément de personnes âgées sur en fait leur bonheur et ce qu'elles retiennent de leur vie et en fait on se rend compte que les résultats disent que les personnes les plus heureuses sont celles qui sont les plus satisfaites des relations humaines qu'elles ont avec les autres dans leur vie. Et du coup, moi, j'assimile beaucoup la réussite à la qualité des relations que j'ai avec les autres. Et en fait, je pense que c'est la base de toutes les autres réussites en fait. C'est que si t'arrives à t'entourer de gens que t'admires, que t'aimes et que tu aides aussi dans leur vie, à mon avis tout le reste se passe assez bien quoi. Je suis vraiment convaincu que l'élément numéro un de bonheur et de réussite c'est les gens avec qui t'es et la relation que t'as avec eux. Donc je suis pas en train de dire après il y a des gens tu vois ils ont trois potes et ils ont des relations ultra profondes, ils passent leur vie avec eux, c'est super bien. Il y en a d'autres qui vont avoir 50 potes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle là-dessus, je pense que ça dépend vachement des gens. Mais ce qui est important, c'est que ce soit les 3 ou les 50, ce soit des gens avec qui t'as une relation riche et riche, positive. Pas forcément des gens qui vont penser que comme toi.
Mais qui t'apportent des choses.
Mais qui t'apportent des choses, mais ouais, par leur diversité ou par... Enfin, ça peut être ça peut être plein de sortes d'apports, quoi. Faut pas non plus chercher à calculer, si tu veux, tes relations, à construire ton réseau comme une spreadsheet Excel en fonction de, j'en sais rien, de ce que chacun va pouvoir t'apporter. C'est pas ça. Mais à mon avis, c'est quand même la base de l'épanouissement et du bonheur. Enfin voilà, on est des animaux sociaux. Il faut prendre ça en compte. Et plus le temps passe. Plus je valorise en fait les gens quoi, les gens avec qui je passe mon temps quoi, et c'est à mon avis c'est ça la plus belle des réussites, c'est à la fin de sa vie de se dire putain on a passé du bon temps ensemble quoi et je vous aime quoi, donc c'est ça un peu ma vision des choses là-dessus.
C'est cool, bah c'est tu vois typiquement le podcast c'est la première étape pour aussi rencontrer ouvrir mon cercle et rencontrer d'autres personnes. Donc c'est cool. Tu te projettes où toi dans 10 ans? Est-ce que tu t'es déjà fait l'exercice? En fait, je te pose la question parce qu'on me l'a posé récemment. Et on m'a dit, tu sais, généralement, on pose souvent la question si t'avais un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, etc.
Oui.
Et on m'a posé la question de tu te vois où, en fait, dans 10 ans? Et j'ai été incapable de répondre à la question. De manière. J'arrive pas à avoir une vision hyper claire de où est-ce que je serais physiquement, qu'est-ce que je ferais. Je sais pas si toi tu t'es déjà un peu prêté à l'exercice de.
Honnêtement, ce que je ferais au jour le jour dans 10 ans, je sais pas trop. Je pense que ce sera toujours autour du collectif. Donc c'est un peu un fil rouge entre mes différents projets quoi. C'est de rassembler des gens pour faire des choses ensemble. Ce sera sans doute ça aura sans doute cette forme là. Je pense que ce sera sans doute avec pas mal de gens avec qui je vis depuis plusieurs années. Enfin, en tout cas, j'espère que ça continuera.
Si tant est.
Je sais pas exactement quelle forme prendront ces relations sociales, ces interactions, ces projets. Je pense que ça restera autour. Il y aura toujours une dimension créative, il y aura toujours une dimension entrepreneuriale, il y aura toujours une dimension d'engagement social. Après, concrètement, ce que ce sera, je sais pas.
Ok, deux dernières questions. Est-ce qu'il y a, il y a des personnes qui t'inspirent et que tu suis régulièrement, je sais pas, sur Twitter notamment, je sais que t'es pas mal actif.
Ouais, bah écoute, là je venais d'écouter un podcast de Tristan Harris, qui est un ancien design éthiciste de chez Google, qui a lancé un mouvement qui s'appelle Time Well Spent pour créer de l'awareness sur les risques des nouvelles technologies au niveau de l'addiction, et qui en fait petit à petit s'est rendu compte que les nouvelles technologies en fait représentaient un risque. Enfin, la manière dont les nouvelles technologies fonctionnent, la manière dont les GAFA fonctionnent, représente un risque énorme pour l'humanité. Et donc là, sa nouvelle croisade, c'est la notion de downgrading en fait, où en fait on se rend compte que les algorithmes de recommandation sur Facebook ou YouTube et Twitter, bien sûr, vont pousser des contenus scandaleux, des contenus haineux, parce que c'est ça qui génère le plus d'engagement, et du coup c'est ça qui fait que les gens vont rester plus longtemps sur ces plateformes-là, et du coup vont regarder plus de pubs. Et donc il entre en croisade, si tu veux, contre ces business models basés sur l'attention, qui en fait finalement génèrent des problèmes énormes pour nos sociétés, mais à une échelle sans précédent, quoi. Donc voilà, quand t'as 2 milliards de personnes qui sont influencées par l'algorithme de Facebook, qui les enferme dans des bulles qui vont en fait les angoisser sur la manière dont la société fonctionne. Moi, c'est incroyable le nombre de gens, même des gens très brillants, qui se rendent pas compte à quel point en fait leur vision des choses sur Facebook ou Twitter biaisé. Est complètement biaisée par les algorithmes, quoi. Et les gens regardent les commentaires qui sont mis en avant sur des posts, et ça leur fait peur, et ça leur fait remettre en question des fondements comme la démocratie, tu vois, dans la société. Et donc, en fait, c'est à mon avis, c'est un des vraiment une des menaces les plus importantes qu'on a aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'objet d'un projet que j'avais lancé il y a un an et demi, qui s'appelait Algo Transparency, sur l'algorithme de recommandation de YouTube, qui influe énormément les élections dans notre démocratie occidentale. Et YouTube et Facebook ont une responsabilité monstrueuse sur l'élection de Trump, sur le Brexit, et Bolsonaro pareil, au Brésil, enfin bref. C'est un des enjeux majeurs, et ce mec-là m'inspire beaucoup parce que clairement il pose ses couilles sur la table et il a déjà eu un impact en fait au bout de quelques années avec des boîtes comme Apple ou Google qui maintenant s'intéressent sûrement à ces sujets-là et ont commencé à lancer des features du coup qui respectent le temps passé, enfin qui incitent les utilisateurs à prendre conscience du temps qui passe sur les différentes applications, quoi.
Ah, parce qu'il y a une vraie dimension psychologique dans toutes ces applications. Leur objectif, c'est que bah ils vendent du temps de cerveau dispo, donc plus tu les fais rester. Et puis ça doit être intéressant. Il est passé par Google, c'est ça, c'est ce que tu disais. Donc en plus, il connaît aussi la machine peut-être de l'intérieur.
Bien sûr, il connaît la machine de l'intérieur, et du coup.
Ok, super intéressant.
Il dit justement que c'est pas le diable en fait. C'est pas que Google cherche absolument à nuire à la vie des gens pour faire plus de profit. C'est juste qu'en fait, c'est pas la priorité pour ces boîtes-là de résoudre ces problèmes. C'est pas la priorité de YouTube de revoir son algorithme de recommandation, alors que ça fait croire à des gens que la Terre est plate, quoi. À des millions de gens que la Terre est plate.
D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le documentaire sur Netflix.
Sur la Terre plate, non, ouais. je l'ai pas encore vu.
C'est assez dingue. Une dernière question. Si t'avais un tableau géant, mm-hmm. qui était visible par le monde entier.
Mm-hmm. Un tableau géant?
Ouais. Okay. Un énorme tableau que le monde entier pouvait voir au même moment d'un coup. Qu'est-ce que t'écrirais, dessinerais, qu'est-ce que tu ferais avec ça?
Ah ouais, c'est pas facile une question, ça.
Il y a un challenge, hein.
Genre le message que je passerais à l'humanité, quoi.
C'est presque ça.
Je pense que j'essaierais de faire quelque chose qui leur fasse prendre conscience du moment présent, de l'importance du moment présent, qui les sorte de leurs angoisses, de leur projection permanente sur le futur, de leur peur par rapport à la manière dont les autres les voient, mais qui les ressentent sur, voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant, avec qui vous êtes maintenant, et profitez de ce moment, quoi. Profitez de ce moment, parce qu'en fait, c'est que ça. Alors, c'est un bouquin que peut-être que tu as lu, qui s'appelle The Power of Now, où en fait, ouais. Ouais, la vie n'est qu'une succession de moments présents, et si les gens arrivaient à profiter de leur journée, et de respecter, passer du bon temps avec les gens qu'ils allaient croiser dans cette journée, je pense que la Terre irait mieux, globalement. Donc, ouais, connectez-vous au moment présent, connectez-vous aux autres, à l'environnement, et regardez autour de vous, quoi.
Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent peut-être te contacter ou en savoir plus sur tes projets?
Sur Twitter, j'imagine. Adrien M.
Très bien, je mettrai tout ça dans la description du podcast. Mais en tout cas, merci à toi pour ce super moment et puis je te dis à bientôt.
Avec plaisir, merci Alexis.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'épisode, pourriez-vous prendre 2 minutes de votre temps pour le noter sur iTunes directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Et comme toujours, toutes les références de l'épisode sont dans la description du podcast, et moi je vous dis à mercredi prochain pour un tout nouvel épisode.